priorités d'action aujourd'hui, elles sont au nombre de quatre. Priorités d'action, marge de zone d'amélioration, zone grise, on peut le définir comme on veut. D'abord, l'accès plus systématique, plus fiable au risque psychiatrique. Et la prise en compte plus efficace de ce risque psychiatrique. Marseille, hélas, bien placée pour parler de cela. La prise en charge des détenus. Vous savez que la détention peut être un lieu d'aggravation de la radicalisation. Je salue à cette occasion d'ailleurs le travail qui a été mené depuis plusieurs mois par la chancellerie, qui avait été entamé par Jean-Jacques Urvoas lorsqu'il était garde des Sceaux, pour doter le ministère de la Justice d'un service du renseignement pénitentiaire digne de ce nom. Et aujourd'hui, continue à monter en puissance, une création récente, qui est accompagnée d'ailleurs par les services du ministère de l'Intérieur dans ce domaine, mais qui, déjà, j'en étais le témoin sur des affaires récentes, a atteint un niveau de précision dans le renseignement extrêmement impressionnant et très fiable. Ils nous ont permis d'ailleurs de mener à terme un certain nombre de procédures, notamment de reconduite à l'étranger de détenus qui se trouvaient par ailleurs être en situation irrégulière sur le territoire et qui ont pu être expulsés à l'issue de leur période de prise en charge des détenus. Troisième priorité, l'école. Phénomène de déscolarisation, les phénomènes d'instruction à domicile. Les associations qui se multiplient et qui parfois imposent aux enfants une deuxième journée de classe après la journée républicaine. Nos moyens d'action dans ce domaine sont assez limités, sauf dans les départements concordataires de l'Est de la France, où le préfet a la possibilité d'agréer les dirigeants d'associations. Sachez qu'on travaille énormément sur ce sujet, à Marseille comme ailleurs, sur tout le territoire. Et que c'était réellement un sujet de vigilance, un sujet de préoccupation constante de la part de nos services. Et puis, le quatrième point, j'en ai déjà parlé, je passe rapidement, celui des returnees, notamment des returnees mineurs, et la problématique de leur traçabilité sur le territoire, traçabilité qui devra être assurée pendant plusieurs années. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire sur l'état de la menace et sur le dispositif, je dirais, sécuritaire, même si vous avez compris qu'il a aussi une dimension sociale, très importante et que les deux sont totalement indissociables, que nous mettons en place pour lutter contre la radicalisation violente. Mais tout ça, c'est une réponse de court terme. On ne saurait s'en contenter. Il nous faut trouver aussi les moyens de lutter à moyen et à long terme contre ce qui alimente la radicalisation violente et donc le terrorisme. Ça échappe un peu aux compétences du préfet de police, mais enfin j'ai quelques idées, donc je les soumets. Le contre-discours. Nous devons absolument avoir un dispositif ou une organisation contre-discours dans notre République. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont prises, mais qui sont dispersées, insuffisantes. On a beaucoup à apprendre de ce qui se fait dans d'autres pays. Je pense notamment à ce qui s'est fait au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'est pas la panacée en matière de lutte contre le terrorisme. On l'a vu récemment, ils ont été frappés, comme nous. L'Allemagne non plus, qui a été frappée, comme nous. Avec un certain décalage dans le temps. Il y a des expériences que l'on peut s'inspirer. En matière de contre-discours, d'affirmation des valeurs, de mise en avant d'exemples positifs d'intégration, d'exemples de réussite. On peut s'inspirer de ce qui a été fait au Royaume-Uni notamment. La deuxième réponse de moyen et long terme, c'est évidemment le sujet économique, la réponse économique. Rétablir l'escalier... Escalier social, pour ne pas parler d'ascenseur social, donner une perspective d'évolution dans la société, une perspective de progression aux jeunes par rapport à la situation de leurs parents, ce sera déjà un moyen de sortir de la tentation radicale. Une grande partie de la population qui aujourd'hui est encore une fois la cible des prosélytes. La réponse économique, alors, elle est très compliquée, mais elle est fondamentale. Et puis la réponse identitaire. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure en citant les Amérantes. On parle Toby Nathan. Mais ça participe du contre-discours et ça participe de la réponse économique. Donner un sentiment d'appartenance nationale à une population qui aujourd'hui ne s'y reconnaît plus forcément. C'est un enjeu politique majeur. Ça a été l'objet de la dernière campagne présidentielle, en tout cas un des objets centraux de la dernière campagne présidentielle. Et il faut nous atteler à ce travail très très vite. C'est pour ça que une convention comme celle que vous avez organisée, Monsieur le Président, aujourd'hui, est très importante. Parce que, comme toujours avec le CRIF, le niveau intellectuel, le niveau d'expertise des personnes que vous réunissez est très élevé. Et donc vous allez pouvoir, on va pouvoir, dégager ensemble des pistes pertinentes, des pistes efficaces sur ces réponses de moyen et de long terme. Et j'ai envie de dire que c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Je ne dis pas que rien n'est fait, mais c'est probablement ce dont nous avons le plus besoin. Bien sûr, le sujet sécuritaire est là, il sera toujours là. Nous mobilisons d'énormes moyens dessus. Mais ça ne suffira pas à tarir la source de la radicalisation terroriste. Donc moi j'attends beaucoup du travail que vous allez mener aujourd'hui avec effectivement des personnes qui savent de quoi elles parlent. Et sachez que je serai très attentif aux conclusions qui seront les vôtres. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir pris cette initiative qui est très importante, spécialement dans la période que nous traversons. Merci beaucoup.